L'amour est un phare. L'amour est un phare érigé pour toujours, qui voit les ouragans sans jamais en trembler. William Shakespeare. Aujourd'hui, samedi 4 avril 2015. Le soleil qui se levait incendiait le ciel au-dessus de l'horizon. Un vieux pick-up Chevy au capot arrondi et à la calandre chromée s'engagea dans le chemin de terre qui conduisait jusqu'à la pointe nord de Winchester Bay. L'endroit était sauvage, envoûtant, battu par le vent, ceinturé de toutes parts par l'océan et les falaises. Lisa Ames gara le véhicule sur la bande de gravier qui encerclait l'habitation. Un gros labrador retriever, au pelage sable, s'élança hors de la voiture et s'ébroua bruyamment. « Doucement, Remington !» demanda Lisa en claquant la porte du pick-up. Elle leva les yeux, toisant la silhouette robuste du phare octogonal qui s'élevait à côté d'une maison de pierre recouverte d'un toit pointu en ardoise. D'un pas hésitant, Lisa monta la volée de marche qui menait au cottage. Elle sortit un trousseau de clés de la poche de sa canadienne, ouvrit la porte et s'avança dans la pièce principale. Un grand salon traversé de poutres apparentes, surplombé par une large baie vitrée qui donnait sur l'océan. La salle était meublée d'une bibliothèque, d'une armoire et de nombreuses étagères en bois cérusé. Au mur et sur les rayonnages, des filets de pêche, des cordages, des lampes tempêtes de toutes les tailles, des casiers à homards en bois verni, des étoiles de mer, une maquette de voilier prisonnier d'une bouteille. Près de la cheminée, Lisa découvrit son mari, avachi sur le canapé. Profondément endormi, Arthur avait une bouteille de whisky aux trois quarts vide, posée à côté de lui. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne l'avait plus revu depuis la mort de Benjamin et de Sophia. Délesté d'une dizaine de kilos, il était méconnaissable, avec ses cheveux longs embroussaillés, son visage mangé par la barbe, ses paupières creusées par des cernes noirâtres. Sur le bureau en bois brut, elle reconnut la vieille machine à écrire que Sullivan avait offerte à son petit-fils pour son 15e anniversaire, une Olivetti Lettera à la carapace en aluminium bleu pâle. Sa présence l'intrigua, car il y avait bien longtemps qu'Arthur ne tapait plus ses romans à la machine. Elle fit tourner le cylindre pour extraire la feuille coincée dans les rouages. 2015, le 24e jour. La nuit. Rien. C'était là son horizon. Il était seul. Seul a un synonyme. Mort. Victor Hugo. Zéro. J'ouvre les yeux. Le texte s'arrêtait là. Elle n'en comprit pas le sens. Puis elle découvrit une épaisse pile de feuilles à côté de la machine. Les mains tremblantes, elle se saisit du manuscrit et en parcourut les premières lignes. L'histoire de nos peurs. 1971.
N'aie pas peur, Arthur. Saute. Je te rattrape au vol.
Tu es sûr, papa ?
J'ai 5 ans. Les jambes dans le vide, je suis assis sur le plus haut matelas du lit superposé que je partage avec mon frère. Les bras ouverts, mon père me regarde d'un œil bienveillant.
Vas-y, mon grand.
Mais j'ai peur.
Moins de 10 lignes, et Lisa pleurait déjà. Elle s'installa dans le fauteuil en rotin derrière la table de travail et reprit sa lecture. 2 heures plus tard, lorsqu'elle arriva à la dernière ligne, Lisa avait les yeux rougis et la gorge nouée. Ce roman, c'était une allégorie de leur histoire. En 300 pages, elle avait vu défiler le film de sa vie. D'abord sa rencontre avec Arthur, dans le New York du début des années 1990, lorsque, jeune étudiante à la Juilliard School, elle travaillait dans un bar underground pour payer ses études. Puis, transfigurée, fardée, enchevêtrée dans la fiction, les joies et les difficultés de leur couple, leur voyage de noces à Paris, la naissance de Benjamin et de Sophia, l'amour bien réel, mais parfois compliqué qu'ils avaient partagé tous les quatre, le passage nostalgique du temps et des jours. Lisa essuya une larme sur sa joue. Tout au long de sa lecture, elle avait partagé la culpabilité et les remords d'Arthur qu'elle découvrait aussi vifs et insupportables que les siens. À travers les pages, un lien s'était renoué entre eux, et elle regrettait à présent de l'avoir accablé et rendu responsable de l'accident. Lorsqu'elle leva la tête, les rayons du soleil perçaient à travers la baie vitrée, enflammant le salon d'une lumière ambrée. Toujours affaissé sur le canapé, Arthur poussa un soupir et ouvrit les yeux. Il se mit debout et, découvrant sa femme assise à son bureau, resta un moment immobile, étourdi, groggy comme s'il se trouvait devant un fantôme ou une apparition.
« Salut !»
lança Lisa. « Tu es là depuis longtemps ?»«
Un peu plus de 2 heures. »«
Pourquoi tu ne m'as pas réveillé ?»«
Parce que je lisais ton roman. »
Alors qu'il hochait la tête, Remington courut dans sa direction en jappant et lui lécha les mains.
« Il manque la faim, » constata-t-elle.
Arthur écarta les bras en signe de résignation.
« La faim, tu la connais.
On ne peut pas déjouer le destin, on ne peut pas réparer l'irréparable, on ne peut pas revenir en arrière. »
Elle fit un pas vers lui. « Ne termine pas ce roman, Arthur, » le supplia-t-elle avec force. « Ne fais pas mourir les enfants une seconde fois, s'il te plaît. »
« Ce n'est que de la fiction, » se défendit-il mollement.
Tu connais mieux que personne les pouvoirs de la fiction. Tout au long de ces pages, tu fais revivre Ben et Sophia. Tu nous fais tous revivre. Tu nous fais combattre. Ne nous brise pas de nouveau. Ne s'aborde pas tout en quelques lignes. Si tu finis le roman, tu nous perds définitivement. Ne ravive pas ta culpabilité. Ne t'accuse pas une nouvelle fois du drame de nos vies.
Elle se rapprocha encore pour le rejoindre devant la baie vitrée.
Ce livre, ce sont nos douleurs, nos secrets. Ne l'expose pas au monde. Ils n'attendent que ça, tous. Personne ne lira ton livre comme un roman. Ils le liront comme des voyeurs, en essayant de donner du sens à chaque détail. Ils liront notre histoire en faisant des raccourcis. Et notre histoire mérite bien mieux que ça.
Arthur ouvrit en grand la baie vitrée et sortit sur la terrasse en pierre qui surplombait l'océan. Lisa l'y rejoignit, le roman serré au creux des bras, suivi du labrador qui dévala les marches taillées dans la roche en direction de la plage. Lisa posa le manuscrit sur une table en bois dont la peinture écaillée avait souffert des outrages du temps.
« Viens, »
lança-t-elle en tendant la main vers son mari. Arthur la saisit et la serra avec une intensité dont il ne se croyait plus capable. La chaleur de sa peau, l'abandon de ses doigts lui donnait une force nouvelle, qu'il pensait perdue pour toujours. Tandis qu'il rejoignait l'océan, elle lui dit
« On ne sera plus jamais 4, Arthur. Mais on peut encore faire le choix d'être 2. On a déjà traversé beaucoup d'épreuves. Celle-là est la plus terrible. Mais on est encore là, l'un pour l'autre. On peut même espérer avoir de nouveau un bébé. C'est ce qu'on a toujours voulu, n'est-ce pas ?»
D'abord, Arthur resta muet. Il marcha aux côtés de sa femme sur le rivage désert qui s'étendait sur des kilomètres. Le vent s'était levé. La brise leur rafraîchissait le visage, l'écume argentée des vagues leur léchait les pieds. Lisa et lui appréciaient l'impétuosité de ce paysage. Son aspect sauvage, intemporel, qui aujourd'hui, plus que jamais, leur donnait l'impression d'être vivants. Puis une bourrasque plus forte souleva le sable. Arthur se retourna et porta sa main en visière pour regarder la terrasse en haut des falaises. Balayé par le vent, les pages de son manuscrit tourbillonnaient dans le ciel. Des centaines de feuilles s'éparpillaient, volant quelques secondes au milieu des mouettes, avant d'être emportées vers le large ou de virevolter sur le sable mouillé. Arthur et Lisa se regardèrent. La légende du phare disait vrai. Les 24 vents ne laissaient rien sur leur passage. Et c'était peut-être aussi bien ainsi. Car c'est la suite de l'histoire qui importait. Et ils étaient d'accord pour l'écrire ensemble.